l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, 12h passées d'une petite minute à la pendule de Présence. Nous sommes le vendredi 19 juin. Merci d'être fidèle à Radio Présence. C'est l'heure du Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Au sommaire, Alexandre, il est paysagiste, concepteur et il fait du beau dans le respect de la maison commune. Il sera au micro de Benoît Guillard dans sa chronique verte dans quelques instants. Nous aurons le coup de cœur en librairie en compagnie cette semaine de Nicolas Dargegène. Il nous présentera un ouvrage de Christian de Cacré, Conversation sur la mort. Nous aurons évidemment le journal régional aux alentours de 12h31. Et puis la chronique solidaire de Anne Deslois aujourd'hui. Elle nous fera découvrir deux choses. Un personnage et une association, Pax Christi en l'occurrence. Et le personnage, c'est Laurence, qui est chargée de mission pour Pax Christi à Lourdes. Et enfin, l'auteur pyrénéen mis à l'honneur aujourd'hui par Catherine Albrecht. Il s'agit de Alfred Tonnelier. Je ne le connais pas. Eh bien, on va faire plus ample connaissance aux alentours de 12h55. Dans l'immédiat, eh bien, débutons cette émission avec, si vous le voulez bien, les titres des informations de la région et de ce jour.
La canicule pourrait perturber la fête de la musique ce week-end. Si les événements sont pour l'instant maintenus, plusieurs communes d'Occitanie prévoient déjà des adaptations avec des points de fraîcheur, des horaires modifiés ou encore des changements de lieu. À Toulouse, le Café Joyeux a ouvert ses portes place de Carme. Cette enseigne solidaire emploie et forme des personnes en situation de handicap mental ou cognitif afin de favoriser leur insertion professionnelle. Rugby maintenant, le Stade Toulousain retrouve le Racing 92 en demi-finale du Top 14. Les Rouges et Noirs veulent décrocher une nouvelle qualification pour la finale du championnat de France. Direction les Hautes-Pyrénées où le porc noir de Bigorre continue de rayonner à l'international. Longtemps délaissé, cette viande d'exception figurait hier soir, notamment au menu du dîner offert par Emmanuel Macron à Donald Trump lors de sa visite d'État. Dans le Lot, le couvent de Vaïla accueillera ce dimanche sa traditionnelle fête du pain et son vide-grenier avec démonstration de cuisson, marché de producteurs et animation tout au long de la journée. Et enfin pour finir, malgré les fortes chaleurs annoncées, les festivités de la fête de la musique restent au programme dans toute la région, sous réserve d'éventuelles adaptations décidées par les communes en fonction de l'évolution de la météo au long du week-end.
Présence à Toulouse, 97.9.
Et c'est l'heure de la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance, j'ai rencontré Alexandre Pinson. Pas tout à fait par hasard, puisque j'étais donc dans le cadre du projet du Centre Assomption à Lourdes. Et Alexandre donc travaille dans une structure qui s'appelle Talarchie. Et j'ai trouvé la démarche, notamment de réflexion et de conception et je dirais même de conduite d'intelligence collective tellement pertinente, puisque tout tourne autour du jardin et de tout ce qui peut être l'écologie. J'ai souhaité mettre un peu de la lumière sur Alexandre, sur ce qu'ils font, et vous le faire rencontrer. Bonjour Alexandre.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Alors Alexandre, peut-être deux mots de présentation sur qui je suis et la structure elle-même.
Très bien, oui. Alors mon nom est donc Alexandre Pinson, je suis paysagiste concepteur et je travaille au sein de l'agence d'architecture et de paysage à Talarchi, qui est basée à Pau. Notre métier, c'est de faire du bâti et du paysage, des projets urbains. On essaie de changer le monde à notre échelle pour faire des projets plus vertueux dans lesquels il fait bon vivre et mieux vivre.
Alors c'est justement pour ça que je souhaitais un petit peu mettre la lumière, parce que dans le cadre du Centre Assomption, ils ont fait le choix de vous recruter, entre guillemets, et vous proposer de les aider à réfléchir sur la conception et la transformation du jardin. Architecte-jardin, c'est quoi le rapport ?
Alors disons que notre agence a une certaine philosophie, une certaine conception de l'espace, et on pense que ce que l'on construit ou ce que l'on fait, nos actes sur notre environnement ne sont pas anodins. On essaie de penser quelque chose en intelligence qui soit assez cohérent, qui allie le bâti, donc l'habiter, le vivre, avec l'extérieur, le vivant. Et tout ça dans une synergie assez intéressante, responsable, qui respecte les principes de l'écologie et qui apporte surtout un mieux vivre à ceux qui vont les fréquenter.
Et alors, donc, bon, c'est un métier nouveau, en fait, quelque part, en tout cas innovant par rapport à son concept. Et en même temps, c'est un besoin qui s'exprime de plus en plus, ou c'est vraiment à chaque fois des cas particuliers, on va dire, des niches de marché ?
Tous les projets que l'on conduit, souvent on a envie de leur donner une teinte participative. On essaie de faire participer donc les usagers, s'il s'agit d'un projet urbain ou dans le cadre du Centre Assomption, tous les participants ou les futurs participants, les futurs résidents du centre. Et on a volonté de les inclure dans ce projet. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit innovant d'associer archi, conception des jardins, de l'espace extérieur et la participation, mais en tout cas, c'est un peu notre signature, ou c'est du moins ce que l'on a envie de faire.
Tout à fait. Alors moi, je l'ai vécu puisque j'ai participé au premier chantier, aux premiers travaux à l'Assomption, là. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que vous mettez autour de la table tout public, en fait, des habitants de Lourdes, des habitants sur place, des experts, des candides. C'est la démarche, c'est le concept.
Exactement. En fait, nous sommes des experts en architecture, en paysage. On a un certain bagage culturel autour de ces sujets-là, mais on n'est pas des experts de tous les territoires. On n'est pas les experts du territoire de Lourdes, et en particulier là du Centre Assomption. Et donc, on a besoin de travailler avec les gens qui y sont, qui le font vivre, qui connaissent les expositions, les bons coins, la nature des usages, la fréquentation des lieux, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, et on pense que le faire au contact de ces personnes sur le long terme, ça rend les projets plus cohérents, plus pertinents, ils sont mieux acceptés, et puis derrière on fait un projet où tout le monde est très content, qui est bien accueilli.
Alors plus souvent, c'est d'avoir une vision effectivement partagée, d'avoir une perspective sur le futur qui ferait que tout le monde soit heureux. C'est aussi l'enjeu du projet, et pour arriver à une telle ambition, on fait comment ?
On essaie de pour emmener tout le monde, embarquer tout le monde, on a plusieurs étapes. On met tout le monde autour de la table et on essaie de briser la glace. On discute, on échange, on rigole, on prend des cafés. Quand parfois sur d'autres projets, on va plus loin. Et l'idée, c'est de commencer par créer une culture commune autour du projet, où on essaie de se comprendre, de partager qui on est, quel est notre rapport avec le lieu, nos motivations à être là. Et tout doucement, on essaie de réfléchir par des séances en atelier, au travail de réflexion. On essaie de réfléchir à un mieux, ce qui pourrait être bénéfique, ce qui est nécessaire, ce qui fait rêver aussi. On essaie de dépasser certaines limites pour explorer tous les champs et ensemble continuer de progresser vers le dessin d'un projet, à toutes les échelles d'ailleurs, un projet qui soit fédérateur, qui fasse sens et qui respecte du coup les principes de l'écologie qui nous sont propres.
Alors peut-être pour faire rêver aussi un peu nos auditeurs, puisqu'on est dans un site un peu merveilleux qui est le jardin du Centre Assomption de Lourdes. Après ces trois séances, si vous deviez, avec vos mots à vous, avec vos représentations à vous, nous décrire ce jardin, vous diriez quoi ?
Alors, je l'aurais dit, mais je l'ai entendu aussi, c'est une sorte de belle endormie finalement. Il y a cette maison qui domine le sanctuaire, qui domine la ville de Lourdes. Une situation en Belvédère qui est vraiment remarquable. Un patrimoine arboré qui est là et des envies, des forces vives, et des énergies qui suffit juste d'aligner en tout cas et, pour arriver à faire flamboyer ce lieu. Donc presque tout est là, il faut vraiment visiter cet endroit parce qu'il est vraiment très chouette et il le sera encore plus dans les années à venir.
Oui, tout à fait. Et alors justement, puisqu'on en est dans ce regard que vous portez sur ce jardin, d'une façon plus large et plus générale, vous Alexandre, bon, qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi ce métier et qu'est-ce qui fait cette appétence vers justement la nature, l'écologie, le beau et la conception ?
Alors j'ai grandi dans une ferme au milieu de la ruralité, enfin dans le monde rural, en Bourgogne. Tout était finalement la nature, tout était un peu chez moi. Et puis j'ai fait un cursus de jardinier, puis de paysagiste, et à la fin de paysagiste concepteur. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'en étant paysagiste concepteur, enfin du coup avec, j'avais en capacité le pouvoir, en tout cas essayer de l'exercer, le pouvoir de faire changer les choses et de créer des endroits qui soient plus agréables, dans lesquels on se sente mieux, des endroits qui soient plus susceptibles d'accueillir la biodiversité, de la révéler, de la soutenir. Et du coup je m'évertue à faire ça. J'ai l'impression que finalement en étant paysagiste on est une sorte de docteur, on arrive à soigner le mot des gens, les mots des gens, en aménageant des espaces plus agréables et plus conviviales qui peuvent supporter tous les moments de vie.
Oui, l'idée c'est de refaire du lien, recréer le lien entre la nature et l'homme qui va trop vite, qui s'est perdu dans ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Et effectivement, on partage cette vision que le jardin il est finalement central, parce qu'il faut d'abord se rétablir, se guérir avant de voir le monde.
Absolument, et je pense aussi que le jardin, lieu dans lequel tout le monde peut trouver sa place, on peut flâner, on peut finalement être assez passif dans un jardin et aussi très, très actif, on peut jardiner, mettre la main à la terre. Le jardin, il fait pédagogie, on se partage des connaissances, on partage des plantes, on passe du temps ensemble, ça fait de la convivialité, ça fait du rapprochement, et puis si on laisse exacerber la nature et l'ensauvagement presque des jardins, on arrive à des résultats qui sont fabuleux.
Parler un tout petit peu de Talarchy, parce que bon, il n'y a pas que l'Assomption comme client, donc bon voilà, c'est quoi le profil des clients de Talarchy aujourd'hui, puis quelques exemples peut-être dans la région.
Alors, je travaille depuis quelques années avec Nathalie Torréjon et Paul Canet de l'agence Talarchy. J'apporte depuis peu le volet paysage, véritablement au sein de l'agence. Et donc ce qu'on fait sont pas mal de projets d'aménagement urbain, des places de village, des espaces publics, des jardins, des aménagements de bord de lac. Et puis l'agence travaille aussi beaucoup à créer des bâtiments qui sont très ouverts, enfin, des bâtiments qui sont conçus selon des principes d'architecture vernaculaire et d'architecture bioclimatique, qui sont très bien exposés, qui sont ouverts, qui sont vivants, qui s'adaptent finalement au public qui vont les fréquenter. Et tout ça maintenant, encore plus maintenant, puisque j'y suis dedans, avec les espaces extérieurs, le paysage en général.
Aujourd'hui, c'est un marché qui s'étend, c'est-à-dire que la prise de conscience des collectivités ou des entreprises ou des structures collectives a ce ressenti de faire de l'architecture et du jardin quelque chose de différent maintenant, de mieux adapté.
Je ne sais pas répondre très bien à ça. Je sais qu'en tout cas, il y a des projets qui émergent régulièrement. Ils sont peut-être pas tous autant teintés d'écologie ou d'ambition écologique. Ils sont sûrement pas tous teintés de démarches participatives. On peut le regretter, ça peut faire fuir. Mais très souvent, quand on met la démarche participative et les personnes qui fréquentent les lieux dans lesquels il y aura des projets au cœur de la réflexion, de la machine, le résultat est toujours génial et à la hauteur de nos espérances, voire même au-delà. Donc il y a vraiment un intérêt à concilier tout ça et si j'avais quelque chose à dire, c'est que vraiment pour aux municipalités de favoriser ces démarches participatives dans leurs projets et aux habitants, aux riverains de ces opérations d'y participer parce que c'est vraiment des temps très importants et qui peuvent changer beaucoup de choses pour eux.
Alors Alexandre, on arrive à la fin de cette émission. Toujours la petite question un petit peu plus personnelle, on va dire. Effectivement, vous êtes jeune, hein. Bon, nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes jeune. Dans vos rêves, dans vos envies, entre guillemets, par rapport au monde d'aujourd'hui, et par rapport à ce que vous connaissez, vos compétences, qu'est-ce que vous souhaiteriez qui évolue le plus aujourd'hui dans le regard et la vision des hommes et des femmes d'aujourd'hui ?
J'ai un enfant qui a 6 ans. J'aimerais qu'il grandisse dans un monde où les gens se respectent leur environnement, la rue, leurs voisins, l'environnement en général et plus généralement la planète, qu'il y ait une certaine conscience plus exacerbée, plus manifeste à préserver ce qui nous entoure, parce que finalement tout ce qui nous entoure est fragile sous nos mains, sous nos pieds, sous nos roues, et peut-être qu'en étant plus attentif à cet environnement, à cette nature, que la jeunesse, ou en tout cas la population qui arrive, sera plus en capacité de la protéger. Donc j'espère que dans l'avenir, les gens feront plus de pédagogie, seront plus sensibles à la nature et à sa préservation.
Merci beaucoup Alexandre d'avoir consacré ces quelques moments pour parler à la fois de Talarchie, votre structure, et puis de vous-même, votre métier, ce beau métier que vous menez, cette passion, parce que moi je vous ai rencontré depuis quelques temps, je vous trouve personne très passionnée et très intéressante en tout cas. Merci infiniment, et puis écoutez chers auditeurs, le jour J viendra, on vous invitera à venir visiter le résultat de ce travail sur les jardins du centre Assomption de Lourdes. Merci, au revoir Alexandre.
Alexandre était au micro de Benoît Guillard pour sa chronique verte. On se retrouve dans quelques instants pour le coup de cœur en librairie en compagnie de Nicolas Dargegène. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare.
présence à Montauban 93.3.
Et toutes les semaines, nous vous proposons un coup de cœur en librairie, cette semaine en compagnie de Nicolas Dargegène, qui est historien et conservateur au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter aujourd'hui le livre de Christian de Cacré, Conversation sur la mort et donc sur la vie, édité par le Service catholique des funérailles en 2022. Il est, je trouve, très important de parler d'espérance. Parler de la mort, même la plus cruelle, même la plus injuste, c'est toujours parler de la vie. Voilà la conviction de ce livre. Christian de Cacré présente ici des entretiens qu'il a pu mener dans une émission de radio diffusée sur Radio Notre-Dame il y a quelques années. Il recevait des personnes touchées par la mort d'un proche, d'un enfant, des personnes accompagnant des personnes dans le deuil, quelle que soit leur religion. Ce sont en tout 24 entretiens avec des personnes différentes, des personnes qui ont connu la mort, qui travaillent avec elle, de religions différentes, de sensibilités différentes, de tout âge, des témoignages très riches. Par exemple, le témoignage du père Hugues de Séréville, ancien abbé de la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, qui parle de la vie dans une abbaye, dans le secret des murs d'un monastère. La mort y a une place. Il le dit lui-même, ce n'est pas la mort, mais la foi en la vie éternelle, la foi en la résurrection de la chair, la foi en la communion des saints. Cette foi donne une coloration très particulière à la mort, et ce faisant, elle nous fait aborder la mort d'une manière qui peut effectivement sembler un peu paradoxale de nos jours, un peu provocatrice ou en tout cas inhabituelle. Pour lui, la mort est un mur, un trou ou un non-sens si la foi n'éclaire pas notre vie. La foi, c'est la capacité de voir ce qui ne se voit pas et d'entendre le message de Jésus dans l'Évangile. Et ce message, c'est celui d'être venu réaliser notre fin ultime en nous rappelant que les hommes sont tous égaux dans la vie et dans la mort pour l'éternité. Christian de Cacré rapporte les propos de Blanche Streb qui a perdu un bébé, une petite Marie in utero. Comme elle écrit dans son livre « Témoignage et éclat de vie », « Je suis un tombeau, je porte en mon sein un bébé mort, je grelotte de malheur, j'ai le cœur en lambeaux. » Le deuil d'un enfant non-né est dur, car le monde ne donne pas une dimension incarnée à cet enfant. Cependant, cette mort a permis à cette famille de prendre conscience de la beauté de la vie. Blanche le dit elle-même, « Cela peut sembler étonnant, mais je crois que la mort fait aussi prendre conscience de la vie. La mort de son enfant est un énorme déchirement, et en même temps, à travers cet événement-là, j'ai pris conscience de quelque chose d'essentiel, notre espérance en la vie éternelle. Cette espérance nous disait que notre fille était née, mais qu'elle ne mourrait jamais. Comme je le partage dans la fin du livre, j'ai véritablement compris à ce moment-là que nous avions perdu notre bébé, mais que notre bébé n'était pas perdu. Notre espérance veut que cet enfant nous attende au ciel, et c'est notre foi qui nous fait croire dans la beauté du jour de notre mort, qui sera aussi celle de nous retrouver. C'est en ce sens que je pense que cet événement a vraiment été une déclaration de vie. Bouleversant de lire cela. Un autre témoignage est celui de Marie de Hensel. Psychothérapeute, elle accompagne des personnes en fin de vie. Pour elle, la pensée de la mort et le goût de vivre sont liés. Elle le dit elle-même, « Nous sommes tous mortels. Nous savons que nous sommes pour peu de temps sur terre. Certains peut-être pour moins de temps que d'autres. Notre vie est limitée et c'est cette limite qui nous oblige à prendre conscience de l'importance de la vie, de son caractère précieux et à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire si je suis âgé et que je sens que j'approche du terme? Toutes ces questions aident à vivre et donnent le goût de vivre. D'ailleurs, c'est une chose qui m'avait frappé lorsque j'étais psychologue en soins palliatifs et que tout le monde me disait « C'est épouvantable, tu dois déprimer tout le temps ». Au contraire, je n'ai jamais été aussi bien, parce que ce rappel quotidien auprès des patients et de leur famille est pour moi bienfaisant. Le philosophe Martin Stephens évoque la peur que nous avons de la mort, cette peur qui nous pousse à occulter la mort et à en faire un tabou dont on ne doit pas parler. Il y a plusieurs raisons à cela, mais il est évident que la perte du Dieu chrétien qui faisait de la mort un rendez-vous au double sens du terme en est une. La mort avait le côté tragique de l'injonction « rendez-vous » qui signifie la défaite. Il faut tout rendre, rendre les âmes, mais aussi celui d'être prêt pour ce grand rendez-vous qu'est la rencontre avec Dieu. Martin Stephens pense que nous devons nous réapproprier la mort, car la réappropriation de la mort implique d'apprendre à voir, à travers la présence dans notre vie de petites morts, de renoncements, de deuils à faire, une façon de nous creuser davantage et de semer dans ses creux notre capacité d'aimer. Tout ce qui est retiré l'est pour nous être donné. Peut-être qu'à la fin de notre vie, nous sera retiré pour nous être mieux donné. Le livre se termine par le magnifique témoignage d'Anne-Dauphine Juillon. Elle a perdu 3 enfants. Elle nous parle de consolation. la consolation qui opère une reconstitution de l'être. Lorsqu'on a connu une épreuve, il y a cette fracture intérieure très forte qui a besoin d'une consolation. Tout un vocabulaire accompagne ces expériences. On parle de cicatrisation pour l'apaisement d'une peine ou encore d'une plaie restée ouverte. Ce vocabulaire emprunte à la douleur physique pour matérialiser une peine qui ne l'est pas, quoique la sensation d'être fracassé soit bien là. La meilleure façon de consoler, c'est d'ouvrir grand son cœur pour recevoir celui de l'autre et comprendre ce qu'il vit, ce dont il a besoin. Mais c'est difficile d'ouvrir en grand son cœur. Nous ne le faisons pas naturellement, nous sommes pleins de défense. C'est très exigeant la consolation, mais c'est aussi très simple dans le sens où cela passe par de toutes petites choses. Pour ma part, je continue à lutter contre ces réflexes habituels qui consistent à te dire « mais je ne peux pas consoler quelqu'un qui souffre d'un si grand deuil, il faudrait que je trouve une formule incroyable ». Or, je suis toujours surprise de voir que les mots qui consolent le mieux, ce sont des mots d'un banal étonnant, mais prononcés à ce moment-là, avec l'intention de rencontrer. Ce sont des « je pense à toi, je t'aime, je suis là ». Par exemple, cette infirmière qui m'a dit un jour « je suis là à changer ma vie ». Il faut cet élan du cœur que l'on nomme « compassion » et qui pour moi est l'un des plus beaux mots de la langue française. Parfois, il faut juste un gramme de courage pour s'approcher. Simplement se dire qu'au lieu de regarder ses pieds, on peut relever les yeux pour les plonger dans ceux de l'autre. Des yeux qui sont peut-être pleins de larmes, mais on peut y aller quand même. Y aller avec cette peur, avec cette maladresse qui nous habite, mais avec une intention réelle, celle de rencontrer l'autre au cœur de sa souffrance, celle de l'aimer ou de porter sa souffrance avec lui. Il faut pour cela une audace folle, mais sans audace finalement, qu'accomplit-on dans la vie ? Ces entretiens sont bouleversants car ils nous montrent que malgré la fragilité de la vie, malgré des conditions parfois difficiles, des morts douloureuses et dures, il y a toujours une espérance dans la mort. L'illustration de la couverture est un résumé de cela. C'est une peinture d'Augustin Frison Roche, nous montrant un paysage gris, de nuit bleutée, mais dans un coin se trouve un petit loriot, cet oiseau que l'on retrouve souvent dans les peintures de l'artiste. Un petit oiseau coloré qui nous montre que malgré la noirceur du moment, malgré la tristesse, il y a toujours un peu de couleur, de la lumière dans ce moment-là. Elle est là l'espérance chrétienne. La mort nous entraîne et nous ouvre vers la vie avec un V majuscule. Conversation sur la mort et donc sur la vie de Christian de Cacré, édité par le service catholique des funérailles, est disponible à la librairie de la Grotte à Lourdes et dans toutes les librairies.
Nicolas d'Argegène pour son coup de cœur en librairie de cette semaine. On continue en musique juste avant de retrouver les informations régionales. À tout de suite.
Thank you for the sunshine bouquet. Sunny. Thank you for the love you brought my way. You give me good. Truth you let me see, Sunny. Thank you for the facts from A to C. My life was torn like a wind blows sand, and the rock was burned when you hit my hand. Oh, Sunny, what's so true?
upon your face, sunny. Thank you for the gleam that shows its grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet complete desire. Sunny, what's a dream? I love you. I love you. Oh. La 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 la. Complete desire, sunny one, so true.
Réjo 94.1.
12h32 à la pendule de présence. Très très bon appétit à vous tous qui êtes à table et qui écoutez nos programmes. Nous sommes en plein cœur du présence midi. C'est l'heure du journal de la mi-journée.
Bonjour à tous. La chaleur reste au cœur de l'actualité en Occitanie. Malgré les fortes températures attendues pour ce week-end, les organisateurs de la fête de la musique maintiennent la majorité des rendez-vous dans la région. Quelques adaptations sont toutefois prévues selon les communes. Certains concerts sont annulés ou déplacés vers des lieux plus ombragés, tandis que des points d'eau et des espaces de fraîcheur seront installés pour accueillir le public. Les autorités appellent chacun à rester vigilant, à s'hydrater régulièrement et à éviter les expositions prolongées au soleil. À Lourdes, le couvent des Clarisses accueillera ce dimanche une journée placée sous le signe de la convivialité avec un vide-grenier et la traditionnelle fête du pain. Les visiteurs pourront assister à la cuisson du pain dans un four ancien, découvrir des démonstrations de savoir-faire artisanal et profiter d'animations tout au long de la journée. Un rendez-vous qui met à l'honneur le patrimoine local et les traditions. En sport maintenant, le Stade Toulousain disputera ce week-end sa demi-finale du top 14 face au Racing 92. Les Rouges et Noirs vise une nouvelle qualification pour la finale du championnat de France. Après une fin de saison marquée par plusieurs blessures, les Toulousains devront retrouver toute leur efficacité afin de poursuivre leur quête d'un nouveau bouclier de Brennus. Gastronomie maintenant, le cochon noir de Bigorre continue de faire rayonner le territoire occitan. 40 ans après avoir été jugé trop gras et presque abandonné, ce produit d'exception figurait récemment au menu du dîner d'État organisé par Emmanuel Macron en l'honneur du président américain Donald Trump. Une belle reconnaissance pour cette filière emblématique des Hautes-Pyrénées qui illustre le savoir-faire agricole mais aussi gastronomique de la région. La canicule s'invite à la fête de la musique, mais en Occitanie, les festivités sont pour l'instant maintenues. Dans plusieurs villes de la région, les organisateurs suivent de très près l'évolution des températures attendues pour ce week-end. Si quelques concerts ont été annulés ou déplacés, la majorité des communes conservent leur programmation tout en adaptant leur dispositif. Des points de fraîcheur, des distributions d'eau et des recommandations sont prévues afin de permettre au public de profiter des concerts dans les meilleures conditions. Et enfin, pour finir, hier a ouvert au 18 Place des Carmes le Café Joyeux de Toulouse. Depuis 20 ans, cette enseigne à but non lucratif a ouvert 27 cafés-restaurants partout en France, recrutant et formant des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Elles sont en effet trois fois plus touchées par le chômage que le reste de la population. Riaz Mahmoud est directeur des opérations pour le Café Joyeux.
On est très heureux. C'est un projet qui est dans les tuyaux quand même depuis 2021. Donc on était attendu des Toulousains et le premier convive qui a ouvert la porte mardi. Mais enfin, vous êtes là. Ils sont hyper heureux. On les appelle les convives. Donc pour nos convives, en effet, c'est comme un café ordinaire avec des formules, des cafés, des brunchs, du salé, du sucré, etc. Avec quelque chose en plus, c'est qu'ils vont être servis par des salariés en situation de handicap. Par Mathias, par Sarah, par Margot, par Enguerrand, par Mehdi, qui sont juste incroyables, conformes au quotidien. On a notre centre de formation, le Campus Joyeux, qui permet à nos équipiers de ressortir avec un diplôme d'État d'agent de restauration. Ça va favoriser l'employabilité et la montée en compétences de nos équipiers. Je pense que avoir ce Café Joyeux dans ce quartier hyper populaire, commerçant, passant, la place des Carmes, on a notre place. Nos équipiers font partie de ce paysage. On voulait un quartier vraiment intime, convivial.
Un témoignage recueilli par Paul Boyer. Le Café Joyeux est ouvert du mardi au dimanche de 8h à 18h, 18 place des Carmes à Toulouse.
La suite de ce Présence Midi avec un auteur qui a parcouru les sentiers de nos belles Pyrénées. Aujourd'hui, Catherine Albrecht mettra à l'honneur Alfred Tonnelly. Mais je vous propose dès maintenant de poursuivre ce programme avec la chronique solidaire de Anne Deslois. Elle va nous faire découvrir Pax Christi au travers de sa chargée de mission ici à Lourdes, Laurence.
Les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre émission Solidairement Vôtre Laurence Pécanté. Bonjour Laurence.
Bonjour Anne.
Vous êtes responsable, ou plutôt chargée de mission pour Pax Christi, ici à Lourdes. Alors avec vous, on va découvrir, dans une première émission, on va découvrir vraiment en profondeur ce qu'est Pax Christi, son histoire, sa mission, son actualité. Et puis, la semaine prochaine, nous vous retrouverons pour une deuxième émission pour bien découvrir les animations ici à Lourdes qui sont présentées par Pax Christi. Alors tout d'abord, nous commençons pour découvrir l'histoire et la mission de Pax Christi. Alors, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs ont déjà entendu parler de ce mouvement catholique. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler son origine et comment vous pouvez le présenter ?
Tout à fait. Alors l'origine, ça remonte à 1944, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on découvre les horreurs des camps. Une laïque, professeure de français à Montauban, Marthe Dortel-Clodo, lance la croisade de prière pour la conversion de l'Allemagne. Il s'agit d'un groupe de prière pour la réconciliation des peuples allemands et français. Alors Monseigneur Théas, qui est alors évêque de Montauban, soutient cette démarche et il prend la tête du mouvement en lui donnant un caractère universel et international. Il en sera le premier président. Le mouvement prend alors le nom de Pax Christi avec l'accord de la Conférence des évêques de France. Et c'est aujourd'hui une ONG présente dans plus de 50 pays sur les 5 continents.
Donc, c'est un mouvement qui a été lancé pour la paix entre les peuples ?
Au départ, oui, c'est un mouvement de prière, de marche pour la paix, de réconciliation, vraiment. Et après, on va dire que très vite, ça s'est répandu, et de plus en plus de personnes ont répondu présentes. Et ce mouvement s'appuie sur 5 piliers qui sont les 5 D. Donc, dialogue et éducation à la paix, droits de l'homme, désarmement et non-violence, défense de la création, développement solidaire.
Alors, avant d'arriver, on va dire même dans le sens de tous ces 5 mots qui sont vraiment la caractéristique de Pax Christi, déjà on va revenir sur ce nom qui est très parlant, Pax Christi. Donc la paix du Christ.
Tout à fait.
Comment vous pouvez définir, qu'est-ce qui a motivé à la fois les fondateurs de Pax Christi de l'époque et puis les successeurs de garder ce nom, Pax Christi? On s'imagine que c'est directement lié aux valeurs de l'Évangile.
Tout à fait lié à l'Évangile, et la paix c'est vraiment une valeur universelle qui parle à chacun de nous. Déjà être en paix avec soi-même, être en paix avec son proche entourage si possible, et être en paix dans le monde, avoir des projets peut-être plus larges.
Alors, comment aujourd'hui être ces artisans, ces acteurs de paix dans le monde? Donc effectivement, vous nous avez dit tout à l'heure, 5 piliers fondamentaux, il y en a peut-être l'un ou l'autre que vous voulez davantage développer?
Alors, moi je suis plus spécialisée sur le dialogue et l'éducation à la paix, bien sûr, puisque je propose des outils, que ce soit à des jeunes, à des individuels, à des groupes, pour déconstruire les discours de haine et promouvoir la non-violence et la paix.
Alors justement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est tellement important, hein, quand on voit déjà depuis tant d'années les conflits qui existent entre des peuples, et puis au niveau de l'international, quand vous êtes justement avec des groupes à la fois de pèlerins ou de personnes diverses qui veulent être sensibilisées à la paix, quel est votre message le plus fort ?
Ben déjà, être en paix avec soi-même, c'est pas si facile. Arriver à se pardonner, parfois, puisque je rencontre des gens qui portent souvent un fardeau, et c'est pas si évident que ça. Mais on peut promouvoir la paix et être artisan de paix au quotidien par des petites actions toutes simples, qui sont à la portée de tous.
Il y a peut-être aussi, parmi les 5 piliers que vous nous avez présentés, un autre, peut-être au niveau, vous disiez, du développement ou de l'écologie?
De l'écologie, bien sûr. On travaille beaucoup à partir de l'encyclique Laudato Si, du pape François.
Les grands sujets, d'une façon générale, au niveau de Pax Christi, j'ai envie de dire national et international, quels sont ceux qui mobilisent le plus les équipes Pax Christi? Déjà, on n'a pas dit, mais... Est-ce que ce mouvement catholique, il est structuré dans l'ensemble des diocèses de France, par exemple? Est-ce qu'il y a des équipes diocésaines,
oui,
de Pax Christi?
Alors, tout à fait. Et il y a des commissions de travail, justement, sur des thèmes particuliers. On est surtout attentif à désamorcer les conflits, aider à réduire les fractures de notre société. Et aussi, au niveau des messes, promouvoir de plus en plus les messes dans plus en plus de paroisses. Chaque 11 du mois, des messes pour la paix.
Ah oui.
Voilà, oui, ça c'est intéressant à faire connaître.
Chaque 11. Alors, le 11 du mois, ça veut dire, ça fait référence à quel...
À la fin de la guerre.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Pour le mois de novembre.
Premier conflit.
En fait.
Voilà, exactement.
Oui. Alors, comment vous pouvez définir Pax Christi comme lieu aussi où se vit la solidarité? Parce qu'on comprend que le fait de mettre les peuples ensemble pour prier pour la paix, il y a quelque chose, bien sûr, de solidaire à travers tout ça. Mais est-ce que vous connaissez, sur le terrain, des actions qui ont une valeur de solidarité en étant initiées par Pax Christi?
Oui, tout à fait. Alors, on participe à des projets, notamment avec les jeunes. On a ouvert un groupe pour les jeunes étudiants, jeunes actifs, 18-25 ans principalement, pour travailler autour de la paix. Et aussi, on aide à financer des vacances solidaires dans un pays d'Afrique. C'est un projet qu'on reconduit cette année. Donc,
c'est ce que vous appelez les vacances pacifiques de Pax Christi?
Voilà, est-ce ce sont les vacances. Voilà, les vacances pacifiques. Donc, c'est animé par des intervenants sur place qui sont médiateurs et qui sont formateurs aussi. Donc, ce sont des jeunes qui interrogent des personnes sur des lieux de conflit, sur des villages sensibles.
Et alors, dans cette initiative qui est donc proposée par Pax Christi pour des jeunes, est-ce que les jeunes partent en groupe ou individuellement rencontrer d'autres peuples?
Alors, ils peuvent partir individuellement, ils peuvent partir en groupe aussi. Et c'est souvent des peuples, alors c'est souvent des pays d'Afrique, bien sûr, avec des jeunes qui se réunissent aussi sur place. Alors, il y a beaucoup de jeunes africains, justement, qui sont très réactifs à ces questions de paix.
Et on sait qu'ils sont sensibles à tout ce qui est question de justice, de solidarité, mais aussi de préservation de la planète. Donc, ça rentre vraiment
Absolument. Dans
l'objectif de Pax Christi.
Oui, exactement.
Vous avez quelques exemples peut-être de jeunes qui ont vécu quelque chose aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine ces dernières années?
Alors, deux jeunes, pas spécialement deux jeunes, mais après, ce qu'on constate quand même, ce sont des jeunes issus d'Ouganda, du Cameroun, du Sénégal, de République centrafricaine ou de République démocratique du Congo, qui sont particulièrement sensibles à toutes ces questions de paix et qui sont vraiment acteurs pour la paix et pour la solidarité. Après, moi, au quotidien, chaque jour, je recueille des témoignages de personnes qui ont vécu des conflits dans leur pays ou même actuellement qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils vivent, notamment aux États-Unis, qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs américaines. Récemment, j'ai reçu aussi un couple du Rwanda, de jeunes retraités, on va dire, qui étaient engagés dans des ONG et qui ont vécu vraiment les conflits au Rwanda lors de la guerre. Et qui m'ont expliqué un petit peu tout ça. Donc j'invite ces personnes-là à témoigner et à se faire connaître aussi auprès de Pax Christi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages terrain. Et j'ai reçu aussi récemment les anciens d'Algérie. Ils n'aiment pas qu'on emploie le mot ancien combattant. Et ce sont des personnes avec lesquelles j'ai tissé des liens finalement, puisqu'ils reviennent tous les deux ans, vu que le pèlerinage des anciens d'Algérie est tous les deux ans. Et ils ont toujours plein de témoignages. Et c'est intéressant parce qu'en principe, on n'aime pas trop, enfin, ceux qui ont participé à ce conflit ont des difficultés à en parler.
Merci en tout cas, Laurence, pour cette première émission sur Pax Christi. Nous allons venir dans une deuxième émission la semaine prochaine, vous donner la parole pour nous expliquer justement ce que vous vivez ici à Lourdes. Vous en avez un peu parlé déjà avec ce couple du Rwanda que vous avez reçu, ces Américains aussi qui vous disent leur façon de voir aujourd'hui, et puis ces anciens d'Algérie. Merci Laurence,
merci
à bientôt.
Merci Anne.
Une émission que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur le site de la radio, radioprésence.com. On se retrouve dans quelques instants. This night, I awoke out from dreams of tall cascading fountains of love. I'm floating like a dove, covered from above with fountains of love. And you fly with me through a scene of deep caressing. From above. Lise Ekdahl sur Présence Rivers of Love.
Radio Présence à Auch, 89.6.
Du Pays Basque aux rivages de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance ou leurs aventures dans les sites fameux pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Alfred Tonnelet. La vie de ce jeune Tourangeau de 27 ans va malheureusement s'arrêter quelques semaines après son séjour aux Pyrénées. Alfred Tonnelet ressentait-il cette prémonition lorsqu'il arrive à Luchon à l'été 1858 ? On pourrait le penser, tant il brûlait les étapes de sa vie. Des études brillantes au lycée Louis-le-Grand, la maîtrise de plusieurs langues, latin, grec, anglais, allemand, des connaissances approfondies en philosophie, en botanique, amateur d'art éminent, cultivé en musique et peinture. À son âge, il a déjà visité plusieurs pays d'Europe et fréquenté les Alpes. Il rejoint des amis à Luchon et fait d'abord avec eux quelques randonnées familiales, lac d'eau, lac vert, super bannière, pic de sauvegarde, Antécade. Il est littéralement séduit, happé par la montagne et s'engage alors avec frénésie dans une succession de conquêtes plus sérieuses. L'Aneto est la première du difficile pic de la Fourcanade. Puis, c'est un tour de piste impressionnant. Cirque de Gavarnie, Montperdu, Canyon d'Ordessa et retour à Luchon par les hautes vallées de l'Aragon et du Pordeau. Il part ensuite pour Perpignan et la côte catalane en passant par l'Espagne. Fin août, il quitte Perpignan pour la Provence, puis regagne Tours où, victime de la typhoïde, il décède le 14 octobre. De ses notes de voyage, tenues au jour le jour, sera édité le livre « Trois mois dans les Pyrénées et dans le Midi » en 1858. Cet ouvrage nous restitue les détails de son périple et de ses ascensions dans un style direct, simple, teinté de quelques élans de prose poétique. Il a le mérite de nous faire découvrir des régions jusqu'ici inconnues, notamment en Espagne. Un des plus grands livres du pyrénéisme pour l'historien Henri Beraldi. On me réveille à 5 heures. Le temps est radieux. Parti à 6 heures avec P, deux guides, Redonné Nat et Ribis. C'est la plus délicieuse matinée que nous ayons encore eue dans les montagnes. Cet air frais et vif, ces pentes noyées d'ombre, ce ciel pur où se perdent les sommets, ces promesses d'une belle journée allègent et rafraîchissent tout l'homme. Dans la vallée de la Pique, la fraîcheur matinale nous saisit. Nous ne sentons plus nos brides ni nos étriers. Nous sommes à l'hospice à 7h15, après une marche très modérée. Reparti à 8h25. Le chemin du port monte droit entre de grands murs de rochers presque perpendiculaires. Le pont de neige, à mi-chemin, est presque entièrement fondu depuis 10 jours. À droite, Sauvegarde, qui de loin paraît une croupe arrondie, se montre de près avec un sommet déchiqueté. On entre dans une espèce de bassin qui précède presque tous les passages dans les Pyrénées et qui, ici, est situé très haut. Sous Sauvegarde, dans une très belle enceinte, un assez grand lac d'un bleu foncé. Ce lac est précédé de 3 petits. Cette sortie de France est pleine de grandeur et de beauté sévère. À mesure qu'on monte, les crêtes à gauche deviennent de plus en plus abruptes et tourmentées. Un petit lacet très serré, tire-bouchon, et très raide grimpe le long d'une paroi de rochers qui descend jusqu'au lac et aboutit à une étroite ouverture, une vraie porte en haut du roc. Au-delà du passage sombre, voilà l'Espagne. Voilà la masse de la Maladeta étincelante sur son piédestal de roc désolé et le ravin profond qui nous en sépare. Nous mettons à peu près 3 quarts d'heure. Quelques endroits assez raides, mais ce n'est pas fatigant. Aborder la crête d'où l'on plonge sur les lacs. Le sommet est très allongé et légèrement incliné. 2 tours ou pyramides de quelques pierres construites par M. Leza en 1849 ou 1850. La Maladeta se présente, d'ici absolument détachée et sans entourage. nous sommes séparés par une vallée désolée d'une nudité austère et farouche. Une base de rochers grisâtres parsemée de petits sapins rabougris. Au-dessus, des plaques de neige, tachant des rocs éboulés qui couvrent les pentes et les larges glaciers sur le sommet écrasé que percent quelques crêtes. Rien que des tons tristes, gris et blancs. Désolation infinie, c'est vraiment le mont maudit. La lumière fauve et les enroulements de nuages lui vont encore mieux que la claire splendeur qui met à nu si crûment son horreur sauvage. À gauche, la Malade d'État est accompagnée des glaciers d'Esparance et de la Forcanade, charmante montagne qui élève sa double fourche orne. Taille élancée svelte, raie de neige, comme une écharpe en bandoulière. Quelque chose de gracieux et de virginal. Vraiment, si c'était une jeune fille, je crois que j'en deviendrais amoureux. L'idée me vient d'essayer de la gravir et de posséder sa virginité, car aucun pied humain n'a encore atteint son sommet. À droite s'ouvre dans toute sa longueur la jolie vallée de Vénasque, qu'on enfile jusqu'aux abaissements de la montagne et jusqu'à la plaine espagnole. On aperçoit le fort de Vénasque comme une petite taupinière. Restez trois quarts d'heure sur le sommet. Redescendu rapidement, en 35 minutes, après avoir laissé nos noms sur le même papier où M. Leza avait inscrit le sien. À travers les mots, les regards, inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent d'Alfred Tonnelly. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Labrèche de nous proposer ces promenades pyrénéennes toutes les semaines. C'est ainsi que s'achève ce Présence Midi. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. N'oubliez pas de vous hydrater correctement. Les températures vont augmenter tout au long de ce week-end pour atteindre les 38 à 39 degrés dimanche. Ça commence à faire chaud quand même. Donc, restez à l'ombre, essayez de vous trouver des endroits un peu plus frais, restez à la maison avec les fenêtres et particulièrement les volets fermés pour conserver la relative fraîcheur de votre habitation. N'oubliez pas cet après-midi l'heure de la prière à 15h30 avec le chapelet en direct de la grotte de Lourdes pour toutes vos intentions. Très très belle journée à vous tous.
Amount in my bank account, I must confess that I'm slipping, but that don't bother me, 'cause confidentially I've got a dream that's a pippin, and when my day is through, each night
Présence à Souillac, 104.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape salue l'engagement en faveur de la transformation écologique, sociale et économique du monde. Léon XIV recevait ce